Mad Productions. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans Lecture pour les Kids, l'émission qui permet aux plus jeunes d'écouter de merveilleuses petites histoires proposées par les bibliothèques. Dans cette nouvelle émission, Céline Rouanne de la bibliothèque de Vezin-sur-Loire vous propose de vous faire découvrir sa sélection d'albums jeunesse. Bonne écoute! Cocotte Tricote, une histoire de Christine Beigel et Christine Détour, aux éditions Didier Jeunesse.
Cet hiver, il fait un froid d'ours blanc. Gare au gros rhume. Heureusement, il y a Cocotte et ses pelotes. « Tu me fais un habit pour mon cou ?» demande le bonhomme de neige. Et tric-tricote-cote, cocotte-tricote. Une grande écharpe orange pour le bonhomme de neige. « Et mes pieds ?» dit le pingouin. « Tric-tric-cote-cote, cocotte-tricote. » « De petites chaussettes bleues pour le pingouin. »« Et ma tête ?» dit la vache. « Tric-tric-cote-cote, cocotte-tricote. » « Un beau bonnet vert pour la vache. »« Et mes fesses ?» dit la baleine. « Tric-tric-cote-cote, cocotte-tricote. » « Un gros maillot de bain jaune pour la baleine. » Et mes pattes, dit la girafe. Tric tric cote cote, cocotte tricote. De longs collants blancs pour la girafe. Et mon bec, et ma trompe, et ma bosse, et mes ailes. Vite, tric tric cote cote, cocotte tricote. Une cagoule pour le canard, un cache-nez pour l'éléphant, un pull pour le dromadaire, un manteau pour l'alouette. Et nous, crie le cochon, le hérisson, la fourmi, le hibou et même le loup. Mais plus une seule pelote. Allons bon. Tric tricote cote cote, tric tricote cote, tric tricote cote, cocotte tricote, des tricotes et retricotes et tricotes. Une couverture pour tous. Elle est forte cette cocotte, non? Mais chut, ils dorment déjà. Bonne nuit, les amis.
Ailleurs, une histoire de Gus Gordon aux éditions Nord-Sud.
Il y a des oiseaux qui s'envolent vers le nord. D'autres qui s'envolent vers le sud. Il y en a qui partent en autocar. En tout cas, la plupart des oiseaux s'en vont quelque part. Georges Finbeck, lui, n'était pas comme la plupart des oiseaux. Georges n'allait jamais nulle part. Dis ici, dis là-bas, dis même là, nulle part. Je suis bien mieux ici qu'ailleurs, se disait-il, sans compter qu'il avait toujours quelque chose de bon au four. Georges avait un véritable don pour la pâtisserie. Ses gâteaux étaient fabuleux. Ses amis en route vers ailleurs ne manquaient jamais de s'arrêter chez lui. « Georges, cet éclair est sublime !» déclara un matin Pénélope Belzégrette. Presque aussi sublime qu'un lever de soleil au sommet des Andes. Accompagne-moi là-bas, ce sera super chouette. Mais Georges n'était pas tenté. Il trouvait une excuse, comme toujours. Pas aujourd'hui, Pénélope, j'ai des brodies au four. Je crois que ceux-ci mériteront bien 3 étoiles. Le lendemain après-midi, Arsène Noireplume passa manger un morceau de son strudel aux pommes. « Quelle merveille » dit-il. « Ça fait rêver. » Exactement comme Paris la nuit. « Viens avec moi, Georges. Tu verras, c'est extraordinaire. »« Désolé, Arsène, » répondit Georges. « J'aimerais vraiment venir avec toi, mais c'est impossible. J'ai une montagne de repassage à faire. » La semaine suivante, toute une bande de copains déboula chez Georges pour goûter son célèbre cake aux carottes. « Si tu voyais l'Alaska, la toundra en automne !» s'écrièrent-ils. C'est si beau qu'il n'y a pas de mots pour le décrire. Comme ton cake. On pourrait dire « Waouh !» suggéra quelqu'un. Mais waouh ou pas waouh, Georges était bien décidé. Il n'irait nulle part. « Je regrette, » dit-il, « mais je ne peux pas manquer mon cours de yoga. » Avec le temps, ses amis cessèrent peu à peu de venir proposer à Georges de les accompagner quelque part. Il avait apparemment tant d'autres choses à faire. L'hiver venu, Georges se retrouva seul. Enfin, presque seul. Pascal Lombard n'était pas parti. Il cherchait un endroit chaud où passer l'hiver. « Ah, si je savais voler » soupira-t-il. « Il paraît qu'en cette saison, les Antilles sont si agréables. Mais toi, pourquoi n'es-tu pas sur une plage, quelque part au soleil ?»« Pas le temps, » dit Georges. « J'apprends à jouer la guitare flamenco. »« Mais, Georges, mais tu n'as pas de guitare, » dit Pascal. « En fait, je ne veux pas rater un seul épisode de ma série préférée. »« Mais tu n'as pas la télévision ?» Ok, la vérité, c'est que j'ai commencé à écrire mes mémoires. Tes mémoires ? Mais tu n'as que 5 ans. Tu ne peux pas avoir grand-chose à raconter. Eh bien, finit par dire Georges, je serais sûrement parti quelque part si je savais voler. Et Georges raconta à Pascal que le jour où tout le monde avait appris à voler, ce jour important entre tous, lui, Georges, était tout simplement occupé ailleurs. Et depuis lors, il inventait toutes sortes d'excuses pour ne pas voler. Or, Pascal avait le chic pour résoudre les problèmes compliqués. « Georges, annonça-t-il, figure-toi que j'ai le chic pour résoudre les problèmes compliqués. Nous allons t'apprendre à voler. » Ils ne perdirent pas de temps. D'abord, il leur délivre utile. Ça ne marcha pas très bien. Puis, ils firent preuve de créativité. Ça ne marcha pas très bien non plus. Et ils finirent par tomber à court d'idées. Au fond, Pascal n'avait peut-être pas vraiment le chic pour résoudre les problèmes compliqués. « Je crois que je ne suis pas fait pour voler, » dit tristement Georges. « Je serai toujours le genre d'oiseau qui reste chez lui. » Georges était découragé. Pascal aussi était découragé. Ils passèrent l'après-midi à lire en silence au coin du feu. Pascal allait se lever pour partir, quand Georges remarqua quelque chose dans son journal. « Tu as vu cette espèce de bulle ? Elle est magnifique ! Qu'est-ce que c'est ?»« Une montgolfière !» Or, Pascal était un bricoleur très adroit. « Georges ! » annonça-t-il. « Figure-toi que je suis un bricoleur très adroit. Cette chose, nous allons la construire. » Et c'est ce qu'ils firent. Cela leur prit tout l'hiver. Au fond, Pascal n'était peut-être pas vraiment un bricoleur très adroit. Finalement, après quelques petites difficultés, « Pascal !» s'écria Georges. « Nous volons !»« Oui, Georges !» dit Pascal. « Nous volons !»« Où allons-nous » Georges sourit. « J'ai quelques idées. » Ils visitèrent tous ces endroits dont on leur avait parlé, et quelques autres aussi. Arsène avait raison, dit Georges. Paris la nuit est vraiment extraordinaire. Georges et Pascal voyagèrent pendant des mois. Le monde était plus vaste et plus merveilleux qu'ils n'auraient jamais pu l'imaginer. Mais quelque chose leur manquait. Les gâteaux de Georges. Et l'hiver prochain ? Demanda Pascal. Où allons-nous ? Quelque part, répondit Georges. N'importe où. Ailleurs.
Quel cafouillage, une histoire de Gianni Rodari, illustrée par Alessandro Sana aux éditions Kaléidoscope.
Il était une fois une petite fille qu'on appelait Chaperon Jaune. Non, rouge ! Ah oui, Chaperon Rouge. Un jour, sa maman lui dit : Écoute, Chaperon Vert. Mais non, rouge ! Ah oui, rouge. Va chez tante, Dioubira lui portait cette pelure de pomme de terre. N'importe quoi. Va chez grand-mère lui porter cette galette. Oh, si tu veux. La petite fille partit dans le bois et rencontra une girafe. Quel cafouillage ! Un loup, pas une girafe. Et le loup lui demanda « Combien font 6 fois 8 ?»« Mais non il lui demanda « Où vas-tu »« Tu as raison. » Et Chaperon Noir répondit « Chaperon rouge, rouge, rouge. » Oui. Et elle répondit « Je vais au marché acheter de la sauce tomate. » Jamais de la vie. Elle dit, je vais chez Mère Grand, qui est malade, mais je ne sais plus quel est le bon chemin. C'est ça. Et le cheval dit, bah, quel cheval? C'est un loup. Ah, effectivement. Et il dit, prends le bus 75, descends à la place de l'église, tourne à droite, tu verras 3 marches et une pièce de monnaie par terre. Oublie les 3 marches, ramasse la pièce et achète-toi un chewing-gum. Grand-père, tu ne sais vraiment pas raconter les histoires. Chaque fois, tu te trompes. Mais je suis d'accord pour le chewing-gum. Tiens, voici ta pièce. Et grand-père se replongea dans son journal.
Si j'étais ministre de la Culture, par Carole Fréchette et Thierry Dedieu aux éditions Onguefait.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, un des conseillers suppliait Sir Winston Churchill de couper dans le budget des arts pour renforcer l'effort de guerre. Churchill lui répondit « Mais alors, pourquoi nous battrons-nous ? » Si j'étais ministre de la Culture, je chercherais, bien sûr, à convaincre mes collègues du gouvernement de l'importance de soutenir les arts et la culture. Et bien sûr, ils m'écouteraient d'une oreille bienveillante. Mais au moment de voter les crédits, ils affirmeraient qu'il faut privilégier les vraies urgences. Santé, équipement, économie, armée. Alors, au lieu de m'obstiner, à leur servir les arguments mille fois répétés, je décréterai sur le champ la tenue de journée sans culture. Journée où toute activité artistique, toute manifestation de vie culturelle serait absolument interdite. Journée sans musique, ni classique, ni jazz, ni cirque, ni spectacle de rue. Pas de danse, pas de série télé, pas d'émission pour enfants. Adieu Guignol. Tous les iPods verrouillés. Tous les clips de YouTube brouillés. Pas de cinéma, ni en salle, ni sur les écrans personnels. Journée sans art visuel. Tableaux retournés dans les musées. Galeries fermées. Interdiction d'ouvrir un roman, un recueil de nouvelles, un livre de poésie, un essai, une bande dessinée. Interdiction de jouir des beautés architecturales. Au besoin, des dispositifs seraient distribués pour s'assurer que l'œil ne puisse attraper la courbe agréable d'une corniche, la ligne élégante d'une façade. Mais aussi, obligation de cacher toutes les œuvres d'art public, draps tendus sur les statues des parcs et des jardins, sur les sculptures de nos ronds-points. Les vêtements, chaussures et chapeaux ne devraient plus être influencés par les créateurs. Seul un modèle unique serait homologué. Concernés aussi les arts appliqués. Les objets de la vie quotidienne devraient être strictement fonctionnels. Un seul modèle de voiture serait disponible. Combien de temps dureraient ces journées sans culture? Le temps qu'il faudrait pour bien sentir l'enfer suffocant que seraient nos existences dans cet univers de stricte efficacité. Univers sans images provocantes. Sans création intrigante, sans phrase bouleversante, sans musique entraînante, sans possibilité de réinterpréter le monde par l'imagination. Le temps qu'il faudrait pour sentir le manque, la sécheresse, la déprime profonde. Le temps que mes collègues eux-mêmes commencent à manquer d'air et réclament leur film de fin de soirée, leur livre de chevet, leur petite histoire avant de se coucher. Le temps qu'ils cessent de me considérer comme ministre du superflu et qu'ils m'invitent à la table de l'essentiel, en tant que ministre de l'équilibre des âmes, du battement des cœurs, de la respiration, ministre de l'oxygène.
Mille vaches, une histoire d'Adèle Tariel et de Julie De Tersac aux éditions Père Fouettard.
Le fermier coulait des jours heureux auprès de Mariette, Ginette et Georgette, ses trois vaches. Il les aimait comme ses enfants. Chaque soir après la traite, il les embrassait entre les yeux pour leur souhaiter une bonne nuit. Paisibles, les vaches semblaient lui sourire. Au village, il échangeait quelques bidons de lait. Un bidon contre un pain tout rond. Un bidon contre un saucisson. Un bidon contre quelques potirons. Souvent, il invitait ses amis à festoyer chez lui. Et les rires résonnaient dans la montagne, jusque tard dans la nuit. Un jour qu'il faisait beau, un homme en costume cravate s'arrêta devant l'enclos. Le fermier le salua et lui proposa un verre de lait tout frais. « Il est délicieux !» sourit l'étrange visiteur. « Je t'en achète une bouteille !» Avant de remonter dans sa voiture, il se retourna vers le fermier. « Tu devrais avoir plus de vaches pour vendre plus de lait. Je connais beaucoup d'habitants de la ville. Je suis sûre qu'ils l'aimeraient. » Le fermier n'y avait jamais pensé. Il était heureux avec Mariette, Ginette et Georgette. Il aimait les regarder gambader dans le pré qui s'emplissait de fleurs en été. Mais il se promit d'y réfléchir. C'est ainsi qu'une semaine plus tard, trois nouvelles vaches, Annette, Paulette et Pâquerette, rejoignirent les trois favorites. L'homme costume revint et le félicita. Il lui proposa même d'aller vendre son lait en ville. Il acheta deux bidons. Dès le lendemain, il était de retour. « Il m'en faut plus, j'ai de la demande. Prends d'autres vaches, » insista-t-il. Fanette, Juliette, Briquette et Biquette intégrèrent alors le troupeau. Puis ce fut le tour de Louisette, Pomponnette, Coquillette, Chaussette, Saperlipopette, Mistinguette et Cacahuète. Il y avait maintenant 17 vaches. Mais ce n'était pas encore assez pour l'homme costume. Il venait désormais chaque matin en camion. Il en voulait plus. « Je ne pourrais pas m'occuper de plus de vaches, » soupira le fermier. « Bien sûr que si. Avec l'argent, tu achèteras d'utiles machines. Ce sera facile. » C'est ainsi qu'une nouvelle fournée de vaches débarqua chez le fermier. Il les nomma comme suit. Pirouette, chouquette, clarinette, girouette, mallette, épaulette, vidiette, sandalette, oreillette, andouillette, raclette, alouette. Il avait du mal à retenir tous les noms. Et il avait parfois l'impression que Mariette, Ginette et Georgette le regardaient de travers, comme si elles avaient maintenant sale caractère. Et d'autres arrivèrent encore. Grosse tête, perd la tête, fait pas la tête, mal de tête, marche sur la tête. Il commençait à manquer d'inspiration pour leur trouver des noms. Alors, il décida de leur donner des numéros et de l'inscrire sur leur dos. Trois jours plus tard, le camion de livraison était archi-plein, de la 35 à la 80. L'homme costume avait le sourire. Mais le fermier était fatigué. Il avait peur de ne pas y arriver. Pour la 100e, l'homme costume lui avait préparé un cadeau. Un robot, capable de traire 5 vaches en même temps, en 5 minutes chrono. Dans le pré, Mariette, Ginette et Georgette avaient maintenant du mal à se retrouver. Et il était devenu difficile de brouter. Toute l'herbe tendre était piétinée par ce gigantesque troupeau ici entassé. Mais le lait se vendait bien. Il en fallait plus. Toujours plus. 101 à 320 descendirent du camion devant les autres vaches aux yeux ronds. Les robots étaient aussi de plus en plus nombreux dans la ferme, devenue usine. Les tableaux géants affichaient les litres de lait récolté. Chaque jour, ils battaient des records. Mais le fermier n'avait plus une minute pour lui, ni pour ses amis. À la 500e, on inaugura en grande pompe un tapis roulant. À la 600e, une étable à étage avec ascenseur à vache. À la 700e, une roue de trait super rapide. À la 800e, des tuyaux à propulsion pour livrer le lait de la ville en continu. Puis, à la 1000e, mais non, il n'y eut en fait jamais 1000 vaches, puisqu'une partie d'entre elles avait disparu. Épuisé, vidé, rincé, le fermier avait maintenant le cœur brisé. Mariagine était Georgette, l'avait abandonné. Sans doute accompagné de 429, 512, 826 et 901. Le fermier confia les autres à son armée de robots et partit à la recherche des 7 fugitives. Elles n'étaient pas loin, elles s'abreuvaient dans la rivière. Mais il avait beau les pousser, elles refusaient de rentrer. Lui refusa de les abandonner. Alors, il se coucha auprès d'elles, dans le pré où elles s'étaient installées. Et il s'endormit. Il fut réveillé en pleine nuit par une grosse langue qui lui lapait la joue. Il se leva en sursaut. Elles étaient toutes là, autour de lui. Les 1000. Toutes l'observaient. Puis, lentement, elles se mirent en route, en file indienne, à travers les montagnes, éclairées par la douce lumière de la lune pleine. Seules Mariette, Ginette et Georgette restèrent auprès de lui. Les yeux humides, il les serra dans ses bras. La ferbusine, promis, c'est fini. On raconte que les 997 vaches ont trouvé en haut des montagnes un immense pré caché de tous, un petit paradis d'herbes fraîches et de fleurs délicieuses.
Je crois que j'aurais préféré croiser 100 000 chats noirs lorsque je l'ai rencontré, qui sortait d'un abreuvoir. Je cigalais sans me soucier de la saison hivernale. Quand paf, me voilà nez à nez, comme ça, avec l'animal. Elle est là,
où ça,
en face de moi,
où ça,
je suis là,
où ça,
en face d'elle. Elle, elle n'a pas peur de moi,
et toi,
et moi, je n'ai pas peur d'elle.
Et nous dansons le tango, bien serré, l'un contre l'autre. Je lui gratouille le dos, elle me chatouille les côtes. Je suis le cavalier de la vache enragée.
Le blabla est entamé, la bestiole prend les devants.
Hé, il paraît que vous chantez. Eh bien, dansez maintenant.
Elle me fait des croche-pieds, moi je lui fais des croche-pattes.
Son coup de boule n'est pas loin de mon nez, je lui épluche une patate.
Elle est là,
où ça,
en face de moi,
où ça,
je suis là,
où ça,
en face d'elle.
Elle, elle n'a pas peur de moi,
Et toi,
et moi, je n'ai pas peur d'elle.
Et nous dansons le tango, bien serré, l'un contre l'autre. Je lui gratouille le dos, elle me chatouille les côtes. Je suis le cavalier de la vache enragée.
Ça, c'est sûr que les copains vont jamais vouloir vous croire. Vont dire que c'est du baratin et que vous avez inventé cette histoire.
Ou alors que vous allez pas bien, que ça y est, vous perdez la tête.
Bon sang, vous êtes tous témoins, vous la voyez bien, la bête. Elle est là,
où ça,
en face de moi,
où ça,
je suis là,
où ça,
en face d'elle. Elle, elle n'a pas peur de moi,
et toi,
et moi, je n'ai pas peur d'elle.
Et nous dansons le tango,
cavalier de la vache enragée qui finira dans mon assiette, je le jure sur sa tête.
Émile fait l'aventure. Texte de Vincent Cuvelier. Illustration de Ronan Badel aux éditions Gallimard Jeunesse. Aujourd'hui, Émile fait l'aventure. Haha, l'aventure. Haha. Un pingouin doudou. Un paquet de mégabons. C'est bon, les mégabons. Ces quatre magiques de magie. Une loupe, une flûte pour jouer de la flûte, des robots qui se transforment en robots et sa montre spéciale d'aventurier. Mais Émile, qu'est-ce que tu fais? Tu prépares tes affaires? On ne te fait pas de pique-nique aujourd'hui? Il pleut. Un pique-nique? Ah non, Émile ne part pas en pique-nique. Émile part en aventure. Ça n'a rien à voir. Un pique-nique, c'est quand on mange au parc, sur l'herbe. En aventure, c'est quand on part très très loin et qu'on traverse des épreuves, tout ça. En aventure? Mais est-ce que tu sais où tu veux aller d'abord? Bah non, hein. Si on sait où on va, c'est plus l'aventure. Les aventuriers, ils disent pas « Tiens, je vais aller au magasin » et après ils reviennent. Les aventuriers, ils partent très très loin. Ils baissent la tête. Et ils font des épreuves, tout ça. Bon, comme tu voudras, mon chéri. Mais je te préviens, il pleut des cordes. Ouais, il pleut. Des cordes. Bon. Émile va dans sa chambre. Il fouille dans sa caisse. Où sont ses casquettes? Il en prend une. Celle qui a un canard dessus. C'est bien, les canards. Ça aime bien la pluie. Il met la casquette sur sa tête. Il prend son baluchon. Comme tu voudras. Bon voyage, Émile. J'espère que tu m'enverras des cartes postales. Oula, il est déjà midi. Moi, je vais manger. J'ai fait de la purée et des saucisses. Et de la mousse au chocolat. De la purée et des saucisses. C'est bon, la purée et les saucisses. Bon, Émile veut bien rester encore un peu. Manger la purée et les saucisses. Et la mousse au chocolat. Et il partira après. C'était bon, hein? Bon, moi je vais regarder un peu des dessins animés d'Angelo, tout ça. Allez, bon voyage, Émile. À bientôt. Ouais, mais en fait, Émile, il va pas partir tout de suite. C'est mieux de partir en aventure après avoir regardé des dessins animés d'Angelo, tout ça. C'est mieux, parce que Angelo, il fait des aventures. Comme ça, Émile, il peut faire les mêmes aventures qu'Angelo, tout ça. Bon allez, mon chéri, tu as regardé assez de dessins animés pour aujourd'hui. Tiens, il ne pleut plus. Si tu veux toujours aller en aventure, tu peux partir maintenant. Émile regarde sa maman. Si Émile veut toujours partir en aventure, ah, bien sûr qu'Émile veut partir en aventure. Émile est un aventurier. Et les aventuriers, ça part en aventure. C'est comme ça, et pas autrement. Bon voyage, Émile. Dis, je descends aussi. Je dois aller faire des courses. Si tu veux, je t'accompagne jusqu'au petit parc. Jusqu'au petit parc, où il y a des jeux. Ah ouais, c'est bien ça, t'accompagner jusqu'au petit parc où il y a des jeux. Comme ça, on peut faire des jeux. On pourra prendre un goûter. Un aventurier ne part jamais le ventre vide. C'est vrai ça. Elle a raison, maman. Elle connaît bien ce qu'il faut pour les aventures. Ça se voit que c'est une maman, de vrai aventurier. D'aventurier qui fait des aventures.
Le potager d'Aléna, une histoire de Sophie Vissière aux éditions Hélium.
Ce matin, comme tous les matins, pour aller à l'école, je passe avec maman devant un champ en friche.
Ce que je ne sais pas, c'est que pendant la journée, le champ va être désherbé et la terre aérée. Le matin suivant, quand je repasse devant, il n'y a plus que des bottes de terre dans le champ. Les herbes folles ont disparu. Ce que je ne sais pas, c'est que pendant la journée, et encore les jours suivants, une maraîchère va creuser des sillons, semer des graines, puis délicatement les recouvrir de terre. Et quand je retourne à l'école, le champ en friche est tout strié. Ce que je ne sais pas, c'est que chaque jour, la maraîchère va venir arroser. Ensuite, elle attendra longtemps, patiemment. Puis, quand le vent se lèvera, elle rentrera chez elle. Les jours suivants, rien ne change dans le champ. Je cours avec le chien le long du chemin. Je m'amuse bien. Ce que je ne sais pas, c'est que ces jours-là, la maraîchère ne viendra pas. Par chance, le champ sera quand même arrosé par la pluie. Le chien, lui, rentrera tout mouillé. Un autre matin, je remarque de toutes petites pousses d'un beau vert brillant et une douce odeur de printemps. Ce que je ne sais pas, c'est que tout ça, c'est grâce à Aléna. Quelques matins plus tard, le champ en friche s'est transformé en un merveilleux potager. Avec maman, on s'arrête pour admirer les tomates qui rougissent au soleil. Mais que s'est-il passé? Le matin suivant, tout a disparu. Plus de salade chardue, de carottes pointues, ni de massifs touffus. Je ne sais absolument pas quelle sale bête a pu faire ça. Aujourd'hui, c'est samedi, jour de marché. Aléna nous accueille en disant « Bonjour mesdames, qu'est-ce que je vous sers cette semaine? Tout vient de mon potager. » Des tomates, des courgettes, des oignons, des poireaux, des carottes, des pastèques, des pommes de terre. Ce que je sais maintenant, c'est que l'année prochaine, après quelques mois de repos, le champ se transformera à nouveau. En attendant, moi, je rentre déguster les derniers légumes de l'été qu'Aléna a récoltés.
Odette fait des claquettes, une histoire de David Cali et de Clotilde Delacroix aux éditions Sarbacane.
Voici Odette. Qui est-elle? Personne ne le sait. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'elle a 7 ans. Aujourd'hui, comme tous les jours, en rentrant de l'école, Odette a mis son costume d'abeille. Elle allume la musique. Puis elle va se placer devant le miroir et elle fait des claquettes. Tout le monde a un avis sur Odette. Pour ses parents, elle est trop maigre. Beaucoup trop maigre. Pour ses copines, elle est trop grosse. Beaucoup trop grosse. Pour sa maîtresse, ça va. C'est une gentille fille. Pour son prof de gym, elle est un peu trop maladroite. Pour son prof de piano, elle est beaucoup trop maladroite. Et elle, Odette, que pense-t-elle de tout ça? Qui peut savoir ce qu'elle a dans la tête, Odette? Odette aime les bonbons, et les pralines, et les chips, et les croissants, les madeleines et les cannelés. Elle aime lire aussi. Son auteur préféré, c'est Léo David. Odette connaît tous ses livres par cœur. Elle l'adore. Elle aimerait le rencontrer un jour. Alors en attendant, quand elle est toute seule, elle met de la musique. Et puis, devant le miroir, elle fait des claquettes dans son costume d'abeille. Odette aimerait être comme les autres filles de sa classe et ses copines de volée. Mince et belle. Ou comme Sauterelle, son personnage préféré de Léo David. Si elle était mince, tout le monde l'aimerait. Tout le monde parlerait avec elle. Bon, il faut arrêter de manger. Voilà la solution. Stop les bonbons, les pralines, les chips et les croissants. et les madeleines, et les cannelés. Tout ça fait grossir. Tout ce qui est bon fait grossir. Il faut arrêter les pâtes aussi. Dommage pour les spaghettis bolognaise au fromage. Odette adore ça. Et le pain aussi. Il ne faut plus rien manger. Voilà, c'est le début d'une nouvelle vie. Bientôt, une Odette inconnue va voir le jour. Différente. Finalement, renoncer à toutes ces sucreries n'est pas si difficile. Tout va bien, les 5 premières minutes. Au bout de 10 minutes, ça va toujours. Au bout d'une demi-heure, ça va encore. Au bout d'une heure, toujours pas de problème. Mais après, maman décide d'aller au centre commercial. Oh oh ! Au centre commercial, il y a le paradis des bonbons. Tu veux un bon petit chou ? Non merci, maman. Tu préfères peut-être une glace ? Non merci, maman. Une barbe à papa, alors ? Non, non. Un chocolat chaud ? Et là, Odette craque. Pas évident de résister à l'assaut de maman. Odette se déteste. Jamais Léo David ne ferait ça. Sauterelle ne mange que de la salade de tomates aux pousses de soja. Mais le chocolat, c'est tellement bon. Odette pousse le chariot jusqu'à la voiture de maman. En rentrant à la maison, elle regarde la lune à travers la vitre. La lune aussi est ronde. Et tout le monde la trouve belle. Et puis un jour, il y a une grande nouvelle à l'école. Un auteur va bientôt venir en visite dans la classe. Et c'est Léo David, l'auteur préféré d'Odette. Incroyable, impossible, trop beau pour être vrai. Odette a trop hâte de le rencontrer pour lui poser plein de questions. Le grand jour de la rencontre arrive. Mais quand Léo David entre dans la classe... Quoi ? Léo David est une femme ? Mais comment est-ce possible ? En fait, elle s'appelle Léonie. Hein ? Et elle est énorme. Elle passe à peine la porte. Mais tout le monde l'écoute, quand même. Hypnotisée. Tout le monde l'aime. La classe pose plein de questions. Vous étiez bonne élève à l'école ? Oui. Vous avez un chat noir comme sauterelle ? Oui, il s'appelle Charbon. Et vous ne mangez que de la salade de tomates aux pousses de soja ? Ha ha, alors ça non, surtout pas. J'aime trop les gâteaux. Mais mon plat préféré, c'est les spaghettis bolognaise au fromage. À la sortie de l'école ce jour-là, Odette n'est plus l'Odette d'avant. Parce que maintenant, elle sait. Elle sait que pour ses parents, elle sera toujours trop maigre. Pour ses copains, elle sera toujours trop grosse. Pour sa maîtresse, elle sera toujours gentille. Pour son prof de gym, elle sera toujours un peu maladroite. Et pour son prof de piano, rien n'ira jamais. Mais ce n'est pas grave. Un jour, Odette sera peut-être elle aussi une grande autrice. Et elle inventera un super personnage, comme Sauterelle, qui s'appellera Fourmi Noire. Pour l'instant, Odette rentre à la maison, où elle engloutit 2 portions de spaghettis bolognaise. Avec plein de fromage. Puis, elle va dans sa chambre. Elle met de la musique. Et devant le miroir, elle fait des claquettes dans son costume d'abeille.
Combien d'arbres ? Une histoire de Barou aux éditions Kaléidoscope.
Combien d'arbres faut-il pour faire une forêt ?
Je sais !
1500 arbres. Je le sais parce que je suis le roi de la forêt. Tu ne sais rien. Moi, je sais combien d'arbres il faut pour faire une forêt.
Moi, je sais.
500 arbres. Mon arbre préféré, c'est le chêne. Peut-être l'olivier. J'aime bien les citronniers aussi. C'est moi le roi. C'est moi qui décide quel est le meilleur arbre. Ah non ! Et puis j'ai changé d'avis. Mon arbre préféré, c'est le pommier. Vous deux, vous ne savez rien. Moi, je sais combien d'arbres il faut pour faire une forêt.
Moi, je sais.
85 arbres. C'est tout ce qu'il faut pour créer de l'ombre. Et jouer à cache-cache. Je suis le roi, donc je sais mieux que toi. Il faut 1500 arbres. Bah non, il en faut 500. Quelqu'un veut jouer à cache-cache ? Vous avez tous tort. Moi, je sais combien d'arbres il faut pour faire une forêt.
Eh oh, j'ai dit que je savais.
40 arbres. Ça suffit pour échapper aux chasseurs. Ou 60, c'est peut-être mieux. Le chasseur est malin. Disons 80. La forêt est mon royaume. C'est moi qui décide.
Non, c'est pas toi.
Tu es trop petit pour jouer à cache-cache. N'importe quoi. Je suis très fort pour me cacher. Le chasseur ne m'a jamais trouvé.
Excusez-moi, je sais combien d'arbres il faut pour faire une forêt.
Non, moi je sais.
4 arbres. Un pour le printemps. Un pour l'été. Un pour l'automne. Et un pour l'hiver.
Non ! Vous avez tous tort ! Écoutez-moi !
Il faut un arbre pour faire une forêt. Parce que même la plus grande forêt commence par la graine d'un seul arbre.
Waouh ! Incroyable !
Ah bon ? Les graines, c'est ça que je préfère. Fourmi, tu es tellement malie que tu peux être ma reine pour un jour. J'adore cette histoire de graines et d'arbres.
Moi aussi. Mais lequel était là en premier ? La graine ou l'arbre ?
Allô docteur ! Mon marronnier, il a la bronchite ! La bronchite ! Il tousse et tousse, tous ses fruits sont tombés ! Docteur ! Que faut-il faire pour le soigner ?
Donnez-lui des pastilles, des gouttes sous les racines, un peu de smetana, jamais de chocolat. Donnez-lui du riz, de la vache qui rit, mettez-le au lit et il sera guéri.
Allô docteur, mon vieux poirier, il a la laryngite, la laryngite. Il crache et crache, le vent ne le fait plus chanter. Docteur, que faut-il faire pour le soigner ?
Des boules de pomme, un verre de jus de pomme, dans un arrosoir, qu'on verse sur ses poires. Donne-lui des pastilles, des gouttes sous les racines, un peu de smetana, jamais de chocolat. Et donnez-lui du riz, et de la vache qui rit, et mettez-nous au lit, et il sera guéri.
Allô docteur, mon peuplier, il a la gastro-entérite. Il crotte et crotte, sa sève à dégouliner. Docteur, que faut-il faire pour le soigner ?
Mettez-lui un pansement, donnez-lui du hareng. Mettez-lui un bonnet que sa grand-mère a fait. Des boules de rhum, un verre de jus dans un arrosoir, qu'on reste sur ses toits. Donnez-lui des pastilles, des gouttes sous les racines, un peu de smetana, jamais de chocolat. Et donnez-lui du riz, et de la vache qui rit. Mettez-le au lit.
Allô docteur, mon cocotier, il a une otite, il souffre et souffre, ses feuilles sont bouchées. Docteur, que faut-il faire pour le soigner ?
Il faut percer ses feuilles à coups de pistolet, lui donner du cerfeuil et lui faire boire du lait. Mettez-lui un pansement, donnez-lui du hareng, mettez-lui un bonnet que sa grand-mère a fait. Des boules de pomme, un verre de jus de pomme, dans un arrosoir, qu'on verse sur ses poires. Donnez-lui des pastilles, des gouttes sous les racines, un peu de smetana, jamais de chocolat. Et donnez-lui du riz, et de la vache qui rit, et mettez-le au lit, et il sera guéri, 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 et il sera guéri.
Et
sera guéri.
Pourquoi tu pleus ? Une histoire d'Anne Crae aux éditions Didier Jeunesse.
Chat, je me sens toute grise. Oh, mais tu pleures ? Alors là, pas du tout. Je pleus. Je pleus des yeux. C'est différent. Ah bon ? Et tu brunes ? Tu pleus vite ? Tu pleus inverse ou tu pleus comme vache qui pisse ? Pfff. Tu pleus de joie ? Tu pleus de rire ? Tu pleus de peur ? Tu pleus d'avoir trop plu ? Tu pleus de quoi, hein ? Tu pleus de quoi ? Je pleus d'orage. Ça me gronde. Ça me tonnerre en dedans. Ça me souffle. Ça me bourrasque la tête. C'est comme une tempête. Ça me déluge le cœur. Ça me hurle comme le vent. Ah ! Oh ! Ça se dégage. Ça va, chat ? Quel temps de chien ! Tu me fais une tempête de bisous ?
Alfred, alerte au chat, une histoire de David Melling, traduite en français par Alice Delarbre aux éditions Père Castor.
Voici Alfred. Alfred aime chanter, se gratter, manger, rapporter, renifler, bâchouiller, creuser, cavaler et somnoler. Mais Alfred n'aime pas les chats, les tout petits chats. Ils grimpent, se cachent et font des bonds. Ils ronronnent, lèchent et font dodo. Ils observent, détalent et font caca. Les chats, les tout petits chats, suivent Alfred partout. Ils veulent faire les mêmes choses que lui. Mais Alfred n'aime pas partager. Ni son goûter, ni son coussin, ni son arbre, ni sa fenêtre, ni son trou, ni son bâton, ni son os, ni son panier, ni sa balle préférée. Mais surtout, Alfred n'a aucune intention de partager sa couverture. C'est son doudou. Alfred adore se blottir dans son doudou, où il se sent si bien. L'ennui, c'est que les chats, les tout petits chats, adorent ce doudou, eux aussi. Ils grimpent, se cachent et font des bonds. Ils ronronnent, lèchent et font dodo. Ils observent, détalent et font caca. Alfred veut récupérer son doudou. Mais les chats, les tout petits chats, ne comprennent rien. Ils croient que c'est un jeu. Jusqu'à ce que... Crac ! Oh non ! Le doudou est déchiré en deux. Alfred emporte un bout de son doudou dans son panier. Il veut se blottir dedans et se sentir bien. Mais son doudou est trop petit maintenant. Alfred frémit, frétille, se tortille, jusqu'à ce que les chats, les tout petits chats, viennent se blottir contre lui. Le lendemain matin, les chats, les tout petits chats, jouent ensemble. Alfred veut s'amuser lui aussi. Alors, il va chercher sa balle préférée. C'est tellement plus marrant de jouer à plusieurs, non ? Alfred et les chats, les tout petits chats, sont amis. Alfred aime chanter, se gratter, manger, rapporter, renifler, bâchouiller, creuser, cavaler et partager. Mais surtout, Alfred aime les chats, les tout petits chats. Enfin, la plupart du temps.
Suzy Boud, une histoire d'Angélique Léon, illustrée par Stéphane Henrich aux éditions Kaléidoscope.
Suzy Boud. Suzy Boud le matin, Suzy Boud le midi et la nuit. Suzy Boud aussi. Ses frères et sœurs chats le lui rappellent souvent. Arrête de bouder, lui dit Bouddy.
T'es pas drôle, tu boudes tout le temps, lui reproche Roddy.
Suzy fait du boudin au chocolat, chante Soddy pour se moquer d'elle.
Suzy est une chatte très gâtée. Une jolie maison pleine de jouets, de coussins de velours pour faire ses siestes. Suzy a même de la crème au beurre, tous les soirs.
Mais Suzy aime bouder. Et personne ne la comprend.
On joue à chat, tu viens ? Propose Bouddy.
Pas envie, grogne Suzy.
Il y a du pâté pour le petit déjeuner, lui dit Roddy.
Pas faim.
J'ai trouvé une pelote de laine toute neuve, s'exclame Soddy.
Suzy ne répond même plus et s'éloigne en boudant.
Oh, t'es pas drôle.
Tu fais tout le temps la tête.
On n'a plus envie de jouer avec toi. Va bouder plus loin, lui disent finalement ses frères et sœurs.
Suzy est un peu pédée. Mais comme elle boudait déjà, personne ne s'en rend compte.
Elle sort alors par la fenêtre, grimpe sur le toit des voisins et reste là, à bouder, toute seule. Ou presque.
Pfff, le toit des babes pas chauffés, ronchonne une voix derrière elle.
Suzy se retourne et découvre un chat aux longues moustaches qui poursuit.
Et vraiment, cette vue, elle n'a rien d'extraordinaire.
Oui, et puis cette tôle est inconfortable, ajoute Suzy.
Tout à fait d'accord, ma chère.
Je suis Florian, dit le chat en tendant mollement la patte.
Suzy, répond-elle.
De quelle fenêtre venez-vous ? Lui demande Florian.
De celle qui est juste en face, un peu plus bas.
Personne ne me laisse bouder tranquille, alors je suis du boudéo ici.
Pfff, c'est délicieux de bouder, dit Florian. Ils ne savent pas ce qu'ils ratent.
Ça vous dérange si je boude près de vous ? Demande Suzy.
Non, non, mais ne boudez pas trop fort. Ça me dérangerait.
Moi aussi, je dois bouder.
Suzy rentre chez elle le lendemain matin. C'était agréable de bouder en compagnie. Ses frères et sœurs s'en étaient aperçus et lui demandèrent pourquoi elle était revenue si tard. Suzy s'éloigna en boudant et murmura.
Pas envie d'en parler. Vous ne comprendriez même pas, de toute façon.
Toute la journée, Suzy attendit le moment où elle rejoindrait Florian sur le toit. À la nuit tombée, elle grimpa et l'aperçut sur une cheminée, occupée à coiffer ses longues moustaches. Elle s'approcha et, sans dire un mot, s'assit près de lui en boudant tranquillement. Le lendemain matin, ils se dirigèrent ensemble vers le parc et s'installèrent près du grand bassin, regardant les carpes jouer au fond de l'eau, en boudant l'un à côté de l'autre.
« Tu as vu ces deux-là qui boudent ?» Comme s'ils avaient avalé du vieux gruyère, dit le chat du parc au bois d'eau avec lequel il faisait semblant de jouer.
Florian se tourna vers Suzy. Comme elle était jolie, pensa-t-il, à bouder si fort. Avec elle, il pouvait enfin bouder en paix.
Allons bouder à la terrasse du café Rostand, dit-il.
On me sert souvent un bol de lait.
Trop froid et un peu caillé, mais ça fera notre idée.
Au café, devant leur bol de lait, en effet trop froid et un peu caillé,
raison de plus pour bouder,
Florian se dit que c'était si bon de bouder pour rien.
Mais qu'à deux, c'était encore mieux. Florian et Suzy boudèrent tout l'été. Ils boudèrent jusqu'en hiver. Et bientôt, ils eurent plein de petits chatons qui, eux aussi, boudaient sans raison.
Dis ours, tu dors ? Une histoire de Jory John et Benji Davis aux éditions Little Urban.
Je n'ai jamais été aussi fatiguée. Je pourrais dormir des jours, des semaines, des mois.
Ah, je n'ai jamais été aussi en forme. Je me demande ce que peut bien faire ours.
Je vais enfin pouvoir dormir. Ah, mon lit douillet.
Tac, tac, tac. Dis ours, tu dors ? C'est moi, canard, ton voisin. Ouvre !
Bon, qu'est-ce qu'il y a, canard ? J'étais presque endormi.
Ben, je m'ennuie. On fait un truc ? Un petit jeu de cartes ?
Oh non.
Un film ?
Non, non.
On joue les rockstars.
Oh non.
On se fait des smoothies.
Non.
Alors on papote toute la nuit.
Ah non.
Un petit jeu de cartes.
Bon, tu l'as déjà dit.
Alors on lit des histoires.
Non.
Tant pis. Bonne nuit.
C'est ça, bonne nuit. Oh, mon lit. Je sens que... je m'endors.
Psst, ours, c'est moi, canard, ton voisin.
Qu'est-ce qu'il y a ?
Je voudrais faire des cookies. Je peux t'emprunter du sucre ?
Non.
Oh, du beurre ?
Non.
De la farine ?
Non.
Oh, du sel ?
Non.
Du beurre ?
Bon, tu l'as déjà dit.
Alors, je peux peut-être t'emprunter des cookies ?
Non. Bonne nuit. Canard ! Oh, quel casse-pied ! Il faut que je me trouve de nouveaux voisins. J'y penserai plus tard. Je suis trop fatiguée. Il faut que je dorme.
Psst ! Ah !
Mais comment es-tu ?
J'ai un double de ta clé.
Uniquement en cas d'urgence.
Mais c'est une urgence !
Qu'est-ce qu'il y a ? Quelle urgence, canard ? Dis-moi un peu.
Je me suis cogné le bec. Regarde.
Canard, arrête de m'empêcher de dormir. Dehors. Tout de suite.
Mais...
j'ai dit bonne nuit.
Pff, quelle rabat-joie. Toute cette histoire m'a fatiguée.
Oh, je n'ai jamais été aussi fatiguée. Mais impossible de dormir.
Bonjour chez vous, Monsieur Caca. Une histoire d'Antonin Louchard aux éditions Saltimbanque.
C'est un monsieur très ordinaire qui habite en bas de chez moi. Il est gentil, il n'est pas fier. On peut même dire qu'il est sympa. Mais quoi qu'il fasse et où qu'il aille, tout le monde le salue bien bas. C'est toujours un peu la pagaille quand on s'appelle Monsieur Caca. Fermant sa porte le matin, il croise parfois son voisin qui vient vers lui à petits pas. Bonjour chez vous, Monsieur Caca. La boulangère qui lui sourit est troublée chaque fois qu'elle dit, devant ses pains au chocolat. « Bonjour chez vous, Monsieur Caca !» Lorsqu'il pédale sur son vélo, en direction de son bureau, des mains s'agitent ici et là. « Bonjour chez vous, Monsieur Caca !» Sur l'écran et les haut-parleurs de son nouvel ordinateur, la phrase est répétée deux fois. « Bonjour chez vous, Monsieur Caca !» Quand il déjeune au restaurant, on entend murmurer les gens, dès qu'il a commencé son plat. « Bonjour chez vous, Monsieur Caca !» lorsqu'une voix sur son portable lui dit « Poussin, c'est ta maman !» Il lui répond d'un ton aimable « Bonjour maman, évidemment !» Quand il veut attraper des perches, le week-end, il va à la pêche, avec ses leurres et ses appâts. « Bonjour chez vous, monsieur Caca !» Sur son balcon, on peut le voir, au printemps, qui sort l'arrosoir. Les enfants crient en contrebas. « Bonjour chez vous, monsieur Caca !» Vient de l'été, le chant des mouettes. Il se repose sur sa serviette, quand surgit toute une smala. « Bonjour chez vous, monsieur Caca !» En automne, s'il veut ramasser des champignons pour son dîner, il n'est jamais seul dans les bois. « Bonjour chez vous, monsieur Caca !» En hiver, il descend les pistes, à grande vitesse, prenant des risques. Du ciel lui parviennent des voix. « Bonjour chez vous, monsieur Caca !» Un jour qu'il cueille des iris, une dame lui dit d'un air complice. « Bonjour monsieur, qu'elles sont jolies. J'en voudrais un bouquet aussi. Je vous les offre, cher ami. Tout mon jardin en est rempli. »« Merci, » dit la dame ravie. « Merci beaucoup, c'est très gentil. Je vous en prie, ne riez pas. Je m'appelle Ordinaire Caca. Je n'en ai pas du tout envie. Je m'appelle Modestie Pipi. » Bien sûr, il tombe sur le champ, très amoureux, passionnément. Et tout le monde est invité au plus beau mariage de l'année. Longue vie et tout de votre bonheur à monsieur et madame Pipi Caca.
Mad Productions.
C'est la fin de Lecture pour les Kids. Vous pouvez retrouver l'émission et la réécouter en podcast sur notre site studiozef.fr. Vous pouvez vous rendre dans les bibliothèques pour retrouver en images les albums que vous avez découverts aujourd'hui et aussi pour en découvrir bien d'autres encore. À bientôt !